écouter une émission préparée par des élèves de 4e et de 5e du collège Boris Vian à propos de l'adieu aux morts et des rites funéraires dans la tradition bouddhiste. Pour répondre aux questions des élèves, nous avons invité Éric Vincent, qui est chercheur associé au laboratoire de recherche groupe Religion, Société et Laïcité, et spécialiste de la laïcité et des faits religieux. Il enseigne à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po, où il donne des cours notamment sur le bouddhisme.
Merci Monsieur Vincent de venir répondre à nos questions de cet atelier d'apprentissage par la recherche. Au cours de nos discussions, nous nous sommes questionnés sur les pratiques autour de la mort dans les religions. On a remarqué qu'il y a plusieurs manières de se préparer d'un corps d'un mort en l'enterrant ou en le brûlant. Par exemple, nous étions intrigués par cette pratique-là que l'on appelle la crémation.
Comme nous savions que cette pratique est courante en Inde, notamment chez les bouddhistes, on a voulu en savoir plus. On s'est demandé pourquoi les bouddhistes, en tout cas certains bouddhistes, brûlent les corps des morts et ce que ça veut dire pour eux. En partant de ça, nous avons préparé plusieurs questions que nous aimerons vous poser.
Tous les bouddhistes croient-ils à la même chose ?
Alors déjà, une première chose, dans votre introduction, vous avez parlé de l'Inde et puis du bouddhisme. Il y a une première précision à faire, c'est que le bouddhisme est né en Inde, à peu près aux alentours de moins 450 avant notre ère. Hein. Donc le Bouddha, qui a donné son nom au bouddhisme, est un personnage de l'antiquité indienne. Mais la religion bouddhiste a disparu d'Inde quasiment aujourd'hui. Donc quand on parle des gens qui brûlent leur mort en Inde aujourd'hui, c'est a priori pas des bouddhistes. En tout cas, les bouddhistes, quand vous voyez, en Inde, il y a 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc c'est un pays les plus peuplés du monde. Et les bouddhistes doivent être, ils ne sont pas totalement absents, mais je n'ai pas de chiffre en tête, peut-être 1 million, peut-être moins. Et en l'occurrence, les bouddhistes indiens sont d'une part des gens qui viennent de l'Himalaya, justement, notamment des réfugiés tibétains, ou des Népalais. Et aussi, on a un petit bouddhisme indien qui est renaît de ses cendres, si on peut dire, au XXe siècle, à travers ce qu'on appelle les intouchables. Vous savez, dans la société indienne, il y a des gens qui ont une position défavorable, pas très agréable, et c'est une partie de ces gens-là se sont convertis au bouddhisme. Donc voilà. Donc on peut pas dire qu'il y a pas de bouddhistes en Inde, mais il y en a très peu. Et en revanche, oui, il y a beaucoup de bouddhistes dans d'autres pays autour de l'Inde. Et oui, il y a différentes sortes de bouddhistes. C'est-à-dire que les pays de tradition majoritairement bouddhiste, vous avez au moins déjà deux grandes formes de bouddhisme. On pourrait dire en gros le bouddhisme de l'Asie du Sud et le bouddhisme de l'Asie du Nord. Si on prend des repères géographiques, ça marche pas trop mal. Après, je vais vous dire des noms barbares, bien sûr. Hein. Le bouddhisme de l'Asie du Sud, on l'appelle aujourd'hui Theravada, hein, Theravada, ce qui veut dire l'école des anciens. Donc, ce bouddhisme, il se présente comme étant l'école la plus fidèle au Bouddha, la plus traditionnelle, hein, la plus conforme au bouddhisme primitif, au bouddhisme originaire. Theravada, c'est un mot qui vient du Pali, qui est la langue sacrée de cette forme de bouddhisme, P-A-L-I. Et l'autre forme de bouddhisme, ça s'appelle le Mahayana, hein, M-A-H-A-Y-A-N-A, c'est beaucoup de A, Mahayana. Maha, peut-être vous connaissez des mots associés à l'Inde où il y a Maha dedans.
Maharaja.
Maharaja. Maharaja, ça veut dire un grand Raja. Un Raja, c'est un roi, vous voyez, il y a des mots du sanskrit ou de l'hindi même, des langues de l'Inde qui ressemblent à des mots français. Un Raja, roi, c'est presque pareil. Et Maha, ça veut dire grand. Donc le Maharaja, c'est le grand roi. Sa femme, on l'appelle une Rani, une Maharani, une reine, c'est quasiment comme du français. Et puis il y a un autre personnage que vous connaissez peut-être, dont le nom est associé au mot Maha. Un homme petit, très mince, avec des lunettes.
C'est Gandhi.
C'est Gandhi, mais bien sûr. Et Gandhi, on l'appelle le Mahatma. Le Mahatma Gandhi. C'est un titre honorifique qu'on lui a donné, et Mahatma, ça veut dire grande âme, grande personnalité, grande figure. Donc, le Mahayana, ça veut dire le grand chemin. le grand véhicule. On le traduit par véhicule, qui est un mot un peu bizarre dans le domaine des religions pour nous. Mais le grand véhicule, c'est donc la grande voie, le grand chemin. C'est comme ça que ce bouddhisme-là se désigne. Et vous voyez, entre ces deux formes de bouddhisme, voilà, là, il y a des différences déjà très fortes. Très souvent, on va faire des amalgames, on va simplifier, on va dire le bouddhisme, il est comme ça, les bouddhistes, ils font ça. C'est un peu ce que vous me demandez d'ailleurs. Est-ce que les bouddhistes, ils traitent leur mort comme ci ou comme ça? Et en fait, quand on regarde la réalité, c'est très difficile de répondre à ces questions, parce que les bouddhistes sont très différents les uns des autres, et qu'entre des bouddhistes tibétains et des gens de Birmanie et des gens de Sri Lanka, ils n'ont pas les mêmes habitudes. Vous voyez. Donc, alors après, une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a différentes sortes de bouddhisme, ça c'est sûr, mais il y a quand même des grands points communs qui font que vous êtes bouddhiste, hein, des grandes idées voilà, qui permettent de dire qu'est-ce que c'est un bouddhiste. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est un bouddhiste? Déjà, c'est quelqu'un qui prend refuge dans le Bouddha, l'enseignement du Bouddha qu'on appelle le Dharma, D-H-A-R-M-A, et la communauté qui suit le Bouddha qu'on appelle le Sangha, S-A-N-G-H-A. Donc, être bouddhiste, c'est, alors, prendre refuge, aussi c'est une expression qui n'est pas très habituelle pour nous, ça veut dire mettre au centre de sa vie le Bouddha, sa parole, son enseignement et tous ceux qui l'ont suivi. Et se reconnaître comme étant, comme ayant comme repère, comme référence, comme port d'attache, voyez, comme un bateau qui part dans l'océan, mais son port, là, son cap, hein, sa ligne directrice, c'est Bouddha Dharma Sangha. Ça, c'est être bouddhiste. Deuxièmement, qu'est-ce qui définit aussi les bouddhistes? C'est de croire dans ce que le Bouddha a enseigné. Hein, le cœur de son enseignement, c'est ce qu'on appelle les quatre vérités nobles. Vous savez, en français, il y a une expression, je vais te dire tes quatre vérités. Hein. Vous connaissez cette expression? Bah, on ne sait pas trop d'où ça vient, il est possible que ça vienne de cette connaissance du bouddhisme. Et donc, les quatre vérités sur lesquelles tous les bouddhistes sont d'accord, c'est d'abord, la vie est marquée par la frustration. La vie ordinaire, notre vie à tous. Là, vous avez envie de jouer une heure de plus sur votre PlayStation, mais vous ne pouvez pas. Hein. Les parents disent non, ce n'est pas possible. Vous avez envie d'aller jouer dehors quand il fait beau, mais non, il faut venir au CDI écouter quelqu'un qui vous parle du bouddhisme, parce que frustration. La frustration caractérise notre vie à tous. Pas tout le temps, heureusement, mais quand même régulièrement, assez souvent. C'est quelque chose qui est au cœur de notre expérience. Alors, des fois, on traduit cette première vérité par le mot souffrance. La première vérité, c'est tout est souffrance ou tout est marqué par la souffrance. C'est trop fort pour nous. Vous voyez, j'allais dire Dieu merci, expression bien française. On n'est pas tous dans la souffrance en permanence. Il y a beaucoup d'humains qui souffrent beaucoup. Il ne faut pas oublier que voilà, nous, on est dans un pays en paix, on est bien nourri, bien soigné, on a des parents, etc. On est protégé par rapport à beaucoup d'autres gens. Beaucoup d'humains sont dans la souffrance. Hein. Pas tous, hein, heureusement. Et donc, ce qui est en tout cas la condition générale des êtres humains, et les bouddhistes vont dire aussi de tous les vivants, hein, des animaux, et même des êtres que nous ne voyons pas, parce qu'ils pensent qu'il y a des êtres invisibles, hein, des sortes d'esprits, si on peut dire. Eh bien, c'est que tous ces êtres-là ont leur expérience marquée par l'insatisfaction, le manque. Je suis avec des gens que je ne voudrais pas voir et je ne suis pas avec des gens que je voudrais voir. Je n'ai pas ce que je voudrais être plus important, je voudrais, vous voyez. Bon, tout ce genre de sentiments. Donc ça, c'est la première noble vérité. La deuxième vérité, c'est que toute cette situation-là, que les bouddhistes appellent « dukkha », insatisfaction, frustration, malaise, mal-être, ça s'explique. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a des causes. Et alors, la cause principale, hein, c'est, disent les bouddhistes, la plus fondamentale de toutes, c'est l'ignorance. L'ignorance. La non-reconnaissance. La non-compréhension. La bêtise. Ça, c'est la première cause de toutes les souffrances. Et elle se traduit par une chose, c'est plutôt le deuxième aspect dont on parle en général, mais même s'il n'est pas forcément le plus fondamental, ça se traduit notamment par l'existence d'un sentiment très fort que nous avons tous, qui est le sentiment du moi. Moi, je. Moi, je veux ça. Moi, il me manque ça. Moi, je. Ce qu'on appelle parfois l'ego, vous savez. Enfin, c'est pas les l'ego, oui. Hein, c'est E-G-O, c'est un mot latin qui veut dire moi. Ego, égocentrisme, égoïsme, ego. Ça, c'est l'aspect le plus fort que nous avons tous, naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes, c'est comme ça. Ça, pour les bouddhistes, c'est une ignorance, hein. C'est-à-dire c'est ignorer que, en fait, bien sûr que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Vous, vous existez parce que vous avez des parents et parce qu'il y a une société qui est là pour vous nourrir, etc. Donc, et c'est vrai pour tout le monde. On n'existe pas tout seul. Hein. Mais on a l'illusion qu'on est, de croire, on a l'illusion de vivre par nous-mêmes tout seul. Ça, c'est une illusion fondamentale, une ignorance fondamentale. Et l'aspect qui est le plus évident de ça, ça se traduit par le désir attachement. Donc souvent, vous allez voir, quand on va vous expliquer le bouddhisme, on va dire la deuxième noble vérité, la cause de dukkha, la cause de l'insatisfaction, c'est le désir. C'est pas faux. Mais plus fondamental, il y a l'ignorance et il y a le sentiment du moi, le sentiment de l'ego, qui fait qu'après, on va être prisonnier de nos désirs. Comme tout à l'heure, je veux un nouveau handspinner, j'en ai déjà 4, j'en voudrais bien un 5e. Hein. Voilà, ça, c'est ce désir-là, c'est une chose qui nous caractérise beaucoup les humains et qui nous crée beaucoup de problèmes, hein, qui nous crée de l'insatisfaction. On est d'accord, j'ai 4 handspinners, mais je ne vois pas les 4 que j'ai et je ne vois que celui que je n'ai pas et ça me manque. Et je suis dans ce désir qui me torture. Donc ça, c'est la deuxième noble vérité, la cause du manque, la cause de du mal-être, du malaise. C'est ignorance, sentiment du moi, désir attachant. Après, le Bouddha, il énonce une troisième vérité qui est on peut s'en sortir. Le Bouddha, il ne dit pas des choses tristes, vous voyez, nihilistes ou pessimistes, voilà, le monde est nul, tout va mal, la vie humaine n'a pas de sens, etc. Pas du tout. C'est souvent les gens croient ça. Les gens vont dire, oh, mais le bouddhisme, c'est pessimiste, etc. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, il va dire, voilà, la réalité, c'est qu'on est dans cette situation pénible, désagréable, hein, on est marqué par l'insatisfaction. Mais l'insatisfaction, ce n'est pas une fatalité, hein, c'est pas un destin, c'est quelque chose qui s'explique. Hein. Et notre intelligence nous permet de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et une fois qu'on a compris, on peut comprendre qu'il y a une issue, il y a une solution. La solution, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Le nirvana, c'est ça. C'est le fait que ça peut s'arrêter, cette souffrance. On peut trouver la paix. Nirvana, c'est un mot dans le sanskrit, la langue sacrée du bouddhisme et de l'hindouisme, une très vieille langue. Et nirvana, ça veut dire littéralement « extinction ». L'extinction, comme un feu qui s'éteint. C'est-à-dire, dans notre expérience quotidienne, il y a le moi qui est là, moi-je, avec toutes ses émotions, toutes ses passions. Hein, et un jour, ça peut s'arrêter, ce moi-je. Hein, ça peut s'éteindre comme un feu qui s'éteint. Alors, qu'est-ce qui reste à la place? Les bouddhistes, en général, ils en parlent assez peu. On peut dire, il y a une phrase célèbre, on dit, le nirvana est paix. Il reste la paix, la sérénité. Peut-être même un bonheur, la paix, on peut dire, c'est un peu calme, la paix, il ne se passe pas grand-chose. Certains parlent même de félicité, de béatitude, d'une joie, quelque chose de très lumineux, de très puissant. Et la quatrième noble vérité, là c'était la troisième, hein, c'est-à-dire qu'on peut se sortir de dukkha, hein, quand on a compris les causes. Hein. La quatrième noble vérité, c'est qu'il y a un chemin pour s'en sortir. Le Bouddha ne nous explique pas juste comme ça, parce que comme un philosophe qui nous dirait des théories, voilà, et puis on s'arrête là, on a lu un bouquin et c'est fini. Non, il nous dit, mais changez votre vie, vivez d'une certaine façon qui va vous permettre de trouver le bonheur, de trouver le nirvana, d'être heureux, d'arrêter de souffrir et d'arrêter de faire souffrir les autres autour de vous. Ça, c'est la quatrième vérité, et ça s'appelle le dharma. Tout l'enseignement du Bouddha, il sert à ça. Donc c'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, souvent on va dire que le Bouddha, d'abord c'est un enseignant, vous voyez, il y a différents, parmi les fondateurs de religion, il y a des gens qui ont des profils différents. Hein, par exemple Mohamed, le fondateur de l'islam, c'était d'abord un prophète, quelqu'un qui parle, qui enseigne, mais c'est devenu très rapidement un chef d'État, un chef, un conquérant, un homme politique aussi, hein, à la fois un chef politique, un chef religieux. Donc le Bouddha, il n'a pas du tout fait ça. Hein. Il était un enseignant, d'abord. Un méditant, c'est-à-dire quelqu'un qui passait beaucoup de temps à s'asseoir et à contempler, hein, à essayer de connaître le monde en se connaissant d'abord lui-même très profondément, connaître son propre esprit. Et c'était une sorte de médecin. C'est pas qu'il soignait vraiment les gens, mais vous voyez, la tradition dit que c'est le grand médecin parce que la grande maladie que nous avons tous, c'est l'ego, l'ignorance, la souffrance. C'est la grande maladie qui afflige tous les humains et tous les êtres, en fait. Pas seulement les humains, comme j'ai des animaux aussi. Bon. Et donc, le Bouddha, il nous donne un traitement. Vous voyez, donc on pourrait dire vraiment tout ce que je vous ai raconté, les quatre nobles vérités qui sont communs à tous les bouddhistes, c'est comme un diagnostic. Vous savez, vous connaissez ce mot, un diagnostic. Hein. Le diagnostic, c'est ce que fait le médecin. Et voilà, le matin, vous avez de la fièvre, vous avez des petits points rouges sur la gorge. Le médecin vient et dit, bah, ça, il y a des signes, ça. Le diagnostic, c'est que c'est une angine. Voilà. Ben, le Bouddha, c'est exactement ça qu'il fait. Hein. Il réfléchit à la condition humaine et il propose une solution, en fait. Et cette solution, c'est le bouddhisme lui-même. Hein. C'est tout un tas de commandements, d'enseignements, de pratiques, de méthodes pour se sortir de dukkha et pour atteindre le but. Hein. C'est ce que les bouddhistes appellent l'éveil. Hein. S'éveiller. Dans l'idée que c'est comme si on était endormi. C'est comme dans la vie ordinaire, tout à l'heure j'emploie le mot d'illusion. Pour les bouddhistes, notre vie ordinaire, c'est comme être dans un rêve, en fait. Et dans c'est plus exactement un cauchemar.
Hein. Oui.
Parce que c'est un rêve qui est marqué par dukkha, par l'insatisfaction, par tout ce qu'on a dit, par toute cette négativité. Hein. Alors, notre expérience du monde, elle est très très limitée, très étroite. Parce qu'on est centré sur soi-même. Moi. Donc comme je suis dans le moi, je ne vois pas le reste. Donc je ne comprends pas bien ce qui se passe autour de moi. Hein. On est complètement pris par cette illusion-là qui est très puissante. Et donc, ce que le Bouddha propose, c'est, par des méthodes qu'il enseigne, de sortir de cette illusion et de s'éveiller. Hein. C'est comme, vous voyez, le matin, vous avez fait un horrible cauchemar, et puis quand vous vous réveillez, mais ça n'existe pas. Et toute la souffrance que j'ai ressentie, elle était fondée sur rien. Mais pourtant, je l'ai réellement ressentie. Donc, quand on est dans un cauchemar, on a vraiment peur, on souffre vraiment. Vous voyez. Donc, c'est ça, ce mot éveil, hein, en sanskrit, donc la langue sacrée du bouddhisme, ça se dit bodhi, B-O-D-H-I. Et celui qui a atteint la bodhi, celui qui a atteint l'éveil, c'est le Bouddha. Hein. Le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Hein. Et donc, c'est cette notion-là qui est centrale dans le bouddhisme, qui veut dire que le Bouddha, il est censé avoir fait une expérience tout à fait hors du commun, après avoir beaucoup réfléchi et beaucoup médité, donc il est avoir beaucoup pratiqué ce qu'on appelle l'ascèse, vous voyez, alors A-S-C-E-S-E, l'ascèse, c'est s'exercer, faire des exercices spirituels. Du jeûne, là en ce moment c'est le ramadan, donc, vous savez, il y a dans beaucoup de traditions on pratique le jeûne. Bon, par exemple, le Bouddha il a beaucoup jeûné, il a beaucoup contraint son corps d'une certaine façon, hein, il a fait des efforts, etc. Bon, contraint son esprit aussi. Il a vécu comme un moine, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de femme, il a eu une femme à un moment, hein, il a même eu un enfant, et puis bon, il les a laissés, hein, pour se consacrer à cette recherche spirituelle. C'est un prince en fait, hein. La légende nous dit que c'est un prince, un homme puissant, etc. Mais qui n'a pas du tout choisi cette voie-là, il a choisi au contraire la voie spirituelle, et ça l'a conduit à ce fameux éveil, à ce fameux nirvana, et c'est à partir de cette expérience-là qu'il nous raconte tout ça, tout ce que je vous raconte, que j'essaie de vous dire, hein, qui est la transmission de la parole du Bouddha, eh bien, ça vient de cet éveil qui fait que le Bouddha n'est pas quelqu'un comme nous, en fait. Hein. Souvent, il y a des bouddhistes qui vont vous dire, oh, le Bouddha, c'est un homme comme nous, c'est pas un dieu. Certes, c'est pas un dieu, n'empêche que à partir du moment où il a atteint l'éveil, il devient autre chose que nous. On peut dire il est, là j'en vais employer un mot barbare, aussi un gros mot, le mot transcendance. C'est-à-dire que il a atteint un état tout à fait extraordinaire. Et c'est à partir de cet état-là, de connaissance ultime, qu'il peut nous dire tout ce qu'il nous dit. Vous voyez. Donc c'est pour ça que dans les pays bouddhistes, il est vénéré comme un dieu. Oui, on dit le Bouddha c'est pas un dieu. N'empêche que si vous allez au Sri Lanka, si vous allez au Vietnam, en Chine, etc., dans les pays où il y a des bouddhistes, vous verrez, ils vont se prosterner devant les statues du Bouddha, ils font des offrandes, ils ont un très très grand respect pour le Bouddha et son enseignement, et pour les moines et les nonnes qui le font vivre. Et donc ils ont des attitudes qui ressemblent tout à fait à celles d'un musulman, ou d'un chrétien, ou d'un juif, ou d'un hindou, face à ce qui est sacré pour lui. Le Bouddha, il est sacré pour les bouddhistes. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on peut dire, je pense, que c'est une religion.
Plusieurs manières de se séparer du corps des morts dans la religion bouddhiste.
Alors, comme je vous ai dit, moi, la version du bouddhisme que je connais le mieux, c'est le bouddhisme tibétain, qu'on appelle aussi d'un autre nom exotique, qui est Vajrayana. Alors, vous avez vu, il y a le Theravada, vous avez le Mahayana et le Vajrayana. Dans cette forme de bouddhisme-là, on peut se débarrasser des morts de plusieurs façons différentes. Pour les autres formes de bouddhisme, je ne sais pas trop. Mais pour ce bouddhisme-là, je sais que les Tibétains, les gens de l'Himalaya, ils brûlent les morts, ils les enterrent, ils les mettent dans des cours d'eau. Et des fois, ils les découpent en morceaux et ils les donnent aux animaux. Ou ils les abandonnent dans des endroits pour que les animaux les dévorent, les vautours, les bêtes sauvages. Donc vous voyez, il y a au moins quatre façons de traiter le corps des morts. Vous voyez. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi, tout à l'heure, quand vous avez mentionné en introduction, en gros, l'idée, il y a soit on enterre, soit on brûle. Vous voyez, il y a d'autres façons de faire. Il y a plusieurs façons. Et il y en a une grande qu'on a oubliée, qui est l'embaumement. Embaumer, vous savez, comme les Égyptiens, les Chinois, hein, les Incas, qui faisaient des momies. Vous voyez, alors on dirait qu'ils les enterrent, hein, ils les mettent dans des tombeaux, etc. Mais d'abord, ils traitent le corps, pas pour qu'il disparaisse dans la terre, mais au contraire, pour qu'il se conserve dans la terre. Vous voyez. Donc, et certainement, il y a peut-être d'autres méthodes que je ne connais pas, mais auxquelles je ne pense pas tout de suite. Mais pour vous dire, vous voyez que l'humanité a traité ses morts de bien des façons. Et il se trouve que les Tibétains, en effet, eux, c'est une civilisation où il y a vraiment beaucoup de méthodes différentes, vous voyez. Bon, ce qui est vrai, c'est que les bouddhistes, en général, brûlent leurs morts. En général. Une des raisons pour lesquelles les Tibétains ne brûlent pas leurs morts, à ma connaissance, c'est qu'il n'y a pas de bois au Tibet. Brûler, ça coûte très cher. Il faut beaucoup de matières premières. Il faut faire de la chaleur. La chaleur, là, nous, dans une société technicienne, où l'énergie est courante, facile à trouver, mais dans les sociétés anciennes, l'énergie, vous voyez, pour brûler un corps, il faut monter à 300, 400, 500 degrés au plus. C'est pas facile, quoi. Donc, en Inde, où il y a beaucoup de bois, eh bien, là, oui, on brûle les morts. Et surtout les morts riches, hein, malgré tout, c'était pas à la portée de tout le monde. Hein. Et au Tibet, même les rois, genre comme ça, qui étaient très riches, eux, ils pouvaient se payer un bûcher. Mais les gens ordinaires, déjà, ben, le bois, dans beaucoup de régions du Tibet, il n'est pas facile à trouver. Il faut l'importer justement de Chine ou d'Inde. Vous pensez le Tibet, c'est des hauts plateaux, très arides, ou des hautes montagnes, il n'y a pas de bois. Hein. Ça peut expliquer en partie, pour des raisons là aussi matérielles, hein. Quand on réfléchit aux religions, il y a beaucoup d'explications compliquées, symboliques, mystiques auxquelles il faut penser. Mais il y a aussi des fois des choses toutes simples, toutes naturelles, économiques, vous voyez, ou techniques qui font que ça va prendre telle ou telle forme. Hein, les rituels vont être ordonnés comme ça. Et alors, pour dire l'idée fondamentale qui préside à tout ça, alors pourquoi les bouddhistes, quand ils le peuvent, ils brûlent leur mort, c'est, je pense, pour se débarrasser de l'ego. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, c'est... L'une des premières formes de l'ignorance et de la souffrance humaine, c'est l'attachement. Je suis attaché, je suis attaché à moi-même, je m'identifie avec mon propre corps, alors que les bouddhistes nous disent qu'on est beaucoup plus que notre propre corps. Bon, bien sûr qu'on est notre corps, mais on est beaucoup plus que ça. Parce qu'eux, ils s'appellent l'esprit. Et l'esprit est beaucoup plus grand que le corps. Et donc, le drame un peu de notre vie, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, on s'identifie avec notre corps, et notre corps, il est tout racorni, il est tout petit, et il est fragile. Il s'abîme, il vieillit, il peut tomber malade, et il peut mourir. Bon. Et donc, pour atteindre l'éveil, une des choses les plus importantes, c'est de vaincre l'attachement au corps, de ne plus être attaché à son propre corps, et de ne plus s'identifier avec son propre corps, pour se rendre compte, au contraire, que notre vraie nature, c'est l'infini. Oui, c'est un message là, très fort. Hein. Notre vraie nature, c'est pas d'être simplement des petits êtres humains dans notre corps, comme ça, d'être tout limité, avec un nom, on est des garçons, on est des filles, on vient de telle famille, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est l'aspect émergé de l'iceberg. Notre réalité la plus profonde, la réalité spirituelle, elle est sans limite. Et ça, vous voyez, c'est la, entre guillemets, la bonne nouvelle du bouddhisme. Hein. C'est on peut accéder à une dimension vraiment sans limite, voilà, infinie. Et pour y accéder, hein, ce qui correspond à ce que j'appelais tout à l'heure l'éveil, eh bien, l'une des premières choses à transformer en nous, l'une des premières choses dont il faut se débarrasser, c'est l'attachement au corps. Donc vous voyez, en brûlant le corps, eh bien, au fond, c'est ça qu'on fait. Hein. On permet de ne pas laisser de traces. Hein. Alors que si on enterre le corps, par exemple, voilà, les gens viennent là pleurer, etc. Enfin, vous voyez, bon. Alors dans certaines civilisations, ça s'est vu positivement. Hein. On en parlera peut-être si on a le temps. Mais dans la civilisation bouddhiste, la meilleure attitude à l'égard d'un mort, c'est de le laisser partir, hein, pour lui-même. Parce que dans la vision bouddhiste, celui qui est mort, il est là. Hein, c'est-à-dire que son esprit est toujours là. Et lui, hein, il voit les gens qui pleurent, etc. Hein. L'une des choses très intéressant dans le bouddhisme tibétain, qu'on n'aura pas le temps de détailler beaucoup, mais vous en avez peut-être entendu parler, il y a un livre qui s'appelle « Le livre des morts tibétains ». C'est une très mauvaise traduction du titre de ce livre, mais il est très connu en Occident sous ce nom-là. Et c'est un livre qui décrit tout ce que ressent quelqu'un quand il meurt. Parce que du point de vue bouddhiste, donc le corps meurt, mais pas l'esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Eh bien, c'est comme si on s'endort. Sauf qu'à un moment donné, on se réveille. Mais quand on se réveille, le corps et l'esprit sont détachés. Et donc l'esprit, il est conscient et il voit son corps. Voyez. Et là, il y a plein d'émotions, il se passe plein de choses. Hein, voilà. C'est épais comme ça, le livre des morts tibétains. Je ne vais pas vous raconter ça, bien sûr, c'est trop compliqué, trop long. Mais, vous voyez, donc dans l'idée de la crémation hein, du corps, il y a aussi l'idée d'aider le mort à se détacher du corps. Hein, et d'aider aussi les vivants à se détacher. Hein. Tout ça dans cette vision, vous savez, une des grandes idées du bouddhisme fondamentale, c'est ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, qui est le mot de vacuité. La vacuité, c'est un mot un peu abstrait, hein, mais dedans, vous entendez la racine latine qui veut dire vide. La vacuité, c'est la qualité de ce qui est vide. Et pour les bouddhistes, le mot le plus juste pour parler de la réalité, c'est ce mot-là. C'est de dire au fond que les choses ne sont pas ultimement ce qu'elles ont l'air d'être. Elles sont toutes liées les unes aux autres, et donc on ne peut jamais les attraper. Quand je dis table, par exemple, hein, je me dis, ben, la table, elle est là, je la touche, et ben ça, c'est une illusion. Parce qu'en fait, cette table, peut-être demain matin, elle ne sera plus là. Et dans 1000 ans, c'est sûr qu'elle ne sera plus là. Et il y a 1000 ans, elle n'était pas là. Donc quand je dis table, ici, maintenant, oui, ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que la table existe pour de bon? Ben, elle existe dans un espace-temps très, très limité. Très, très limité. Et donc, en fait, ce qui existe, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté cette table, il y a des gens qui l'ont pensée, elle a été faite avec des matériaux qui viennent de là. Donc, elle est où, la vraie table? On ne peut pas répondre à cette question. C'est ça que les bouddhistes appellent la vacuité. C'est que si je veux attraper la vraie table, la définir, je ne peux pas le faire. C'est insaisissable. L'essence des choses est insaisissable. Alors vous voyez, la vacuité, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, ça veut dire qu'elles sont insaisissables, qu'on ne peut pas les définir, les enfermer, les cataloguer, les limiter. Et qu'au contraire, il y a l'idée d'avoir cet esprit ouvert qui est capable de concevoir l'infini, comme je disais tout à l'heure, de s'identifier avec l'infini. Donc en se débarrassant du corps de cette façon-là, voyez, on manifeste au fond la vacuité du corps, hein, le fait qu'il est insubstantiel lui aussi, hein, et que notre vraie réalité, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Et ce qui est matériel est, alors c'est un grand mot bouddhiste aussi, tout ce qui est matériel est impermanent. Impermanent. Oui. Donc, la crémation, elle manifeste l'impermanence du corps. Hein. Au lieu de faire un corps, de faire une statue, un truc solide, etc. Non, le corps, il est comme tout le reste. Il se dissipe. C'est comme de la buée. Vous voyez, c'est comme une bulle de savon. Voilà, elle a existé le temps qu'elle a existé, hein, après elle disparaît. Alors, chez les Tibétains, l'idée qu'il y a aussi, qui revient au même, puisque le corps disparaît de toute façon, le corps disparaît toujours. Mais ce qui est très important, c'est d'être utile aux autres. Et ça, c'est la caractéristique du Mahayana. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que le bouddhisme tibétain, c'est une branche du Mahayana. Le bouddhisme Mahayana, il insiste particulièrement sur aider les autres, être utile aux autres. Le sens de la vie, c'est ça. Si vous préoccupez d'aider autrui, vous ne serez jamais malheureux. C'est une chose très importante à comprendre. Des fois, on est pris par ses problèmes, ses soucis, etc. Si on se rappelle qu'on peut, au lieu de rester tourné vers ses propres soucis, sa propre frustration, qu'on peut s'occuper de quelqu'un d'autre, qu'on peut donner à quelqu'un d'autre, eh ben, on n'est jamais prisonnier par sa tristesse. Vous voyez, on peut toujours être dans la vie, être utile, trouver une utilité. Donc tout le bouddhisme Mahayana est axé, alors de façon encore plus profonde, sur cette idée, au fond, que ce qui nous fait souffrir, c'est l'égoïsme.
Oui.
Et que ce qui nous rend heureux, c'est d'aider les gens, d'arrêter d'être égoïste. Et que quand on se met à aider, plus on aide, plus on est heureux. Et vous voyez, c'est comme une spirale positive qui fait que voilà, ça va de mieux en mieux et on est de plus en plus fort. Parce que, bien sûr, pour aider, vraiment, il faut être capable d'aider. Il ne suffit pas de vouloir aider. C'est beaucoup de vouloir aider, c'est certainement le plus important. Mais si on veut vraiment aider, on va trouver les moyens de vraiment aider. Vous voyez, c'est comme un médecin, par exemple, je veux soigner les gens. Il faut une grande motivation pour faire les études de médecine, c'est pareil. Donc la motivation, elle est primordiale, elle est première. N'empêche qu'il faut que je fasse les études de médecine. Si je veux juste aider les gens et que je n'étudie pas, je ne pourrais pas les aider. Donc il y a plein de choses à apprendre et à faire. Vous voyez. Et donc, le bouddhisme, il se présente aussi comme ça. Il dit, à la fois, il va développer la motivation d'aider, mais il va donner des méthodes, des moyens, ce que les bouddhistes appellent les moyens habiles, pour réellement aider autrui. Et donc, voilà, cet amour-compassion, hein, oui, amour, c'est vouloir donner tout le bon à autrui, et compassion, c'est vouloir soulager la souffrance des autres. Donc, à la fois, cette double motivation de vouloir donner le bon et enlever le mauvais, ou empêcher que les autres tombent dans ce qui est douloureux pour eux, hein, ça, c'est au cœur du bouddhisme, vraiment, c'est central. Et donc, tout ça explique le fait, vous voyez, par exemple, de donner le corps aux animaux. C'est au lieu que ce corps il serve à rien, il se voyait pas dans s'il est brûlé, ben il aide personne. Hein? À la limite peut-être ça aide ce qu'on appelle l'esprit et la famille peut-être. Mais si le corps il est donné aux oiseaux, ben, les oiseaux ils sont super contents, c'est hyper utile pour eux. Et donc dans la vision bouddhiste des choses, le mort par exemple dont le corps a été donné, c'est positif pour lui, c'est-à-dire qu'il est utile, même étant mort il est toujours utile. Vous voyez, on a un peu la même idée, nous, aujourd'hui, à travers les greffes d'organes. Mmh. Vous êtes mort. Bon. Bah, au lieu de pourrir et que ça ne sert à rien, ou qu'on vous brûle, si vos organes ils peuvent donner la vue à quelqu'un ou sauver le cœur de quelqu'un, ça, mais c'est hyper précieux. Vous voyez et donc ça, c'est une attitude aujourd'hui. Bon, il y a plein de gens qui ne sont pas bouddhistes et qui sont d'accord avec ça. Hein, c'est rationnel hein, de dire, au fond, si mon cœur il peut encore fonctionner, mais autant qu'il serve à quelqu'un. Bien sûr, moi, je suis mort de toute façon. Donc, bon. Et donc cette idée-là chez les bouddhistes, elle est hyper présente. Donc c'est ça qui explique pourquoi donner le corps aux animaux, vous voyez, c'est utile pour le mort en quelque sorte. Ça lui permet d'accumuler un mot que vous avez déjà entendu aussi, le mot de karma. Vous savez, le karma, ça veut dire action en sanskrit, acte. Et donc le karma positif ou négatif, c'est la force, l'énergie qui est liée aux actes que nous faisons. Si nous faisons des actes vertueux, généreux, tournés vers autrui, positifs, on acquiert du karma positif, de l'énergie positive. On est plus fort, dans la vision bouddhiste, ça va nous donner de la force et de nous donner de la chance, hein, tout ce qui est précieux. Ouais. Au contraire, évidemment, si on est égoïste, méchant, violent, voleur, menteur, tout ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, ça va conduire à avoir au contraire de la malchance, des malheurs, des maladies, tout un tas de souffrances. Oui. Et donc, du point de vue bouddhiste, si vous donnez votre corps à quelqu'un d'autre, il y a une histoire qui raconte, le Bouddha, il raconte ses vies antérieures. Vous savez, les bouddhistes, ils croient à la réincarnation, ils croient à la renaissance. Et donc, le Bouddha, il raconte que dans une de ses vies, il a été une maman tigre. Cette maman tigre, elle était dans une jungle où il n'y avait plus rien à manger, et elle avait 5 bébés tigres. Et donc, la maman tigre, elle a donné son corps à manger à ses bébés. Parce que les parents, parfois, on sait qu'ils sont capables de faire des choses comme ça, tellement ils aiment leurs enfants. Et il n'y avait rien d'autre, elle s'est donnée elle-même. Oui. Et ça raconte aussi comment le Bouddha il est devenu Bouddha. Mais parce que, par exemple, pendant beaucoup, beaucoup de vies successives, il avait développé comme ça cet amour et cette générosité jusqu'à donner sa propre vie, son propre corps aux autres. Oui. Et donc, voilà, le mort, quand on donne son corps aux animaux, c'est pareil, d'une certaine façon, vous voyez. Donc les gens, ils ont tout ça en tête. Quand ils vont faire tel ou tel rituel de mort, tel ou tel obsèque, hein, tel ou tel rituel funèbre, eh bien, il y a toutes ces représentations-là qui sont présentes. Hein, et dans l'idée, à la fois, vous voyez que le corps, il retourne dans le grand mouvement naturel de l'interdépendance, et en même temps, il est utile à plein d'êtres qui vont s'en nourrir, et que ça, c'est très positif.
Pourquoi, dans certaines religions, il est interdit de brûler le corps des morts, alors que dans d'autres, c'est autorisé?
Alors en fait, la question générale, c'est, ça revient au cœur de la religion ou du religieux, vous voyez, comment se fait-il que toutes les civilisations soient caractérisées par des religions? Il n'y a pas de société humaine sans religion, ça n'existe pas, on n'a pas d'exemple. Et que dans toutes ces civilisations, l'un des points clés de la religion, c'est de s'occuper des morts. On pourrait dire, il n'y a pas de civilisation humaine où on ne s'occupe pas des morts. Les humains prennent toujours soin de leurs morts, sauf dans des moments de crise très graves, dans des moments de guerre ou de destruction très particuliers, où justement les humains ne vont plus prendre soin des morts, et c'est un signe de la gravité de la crise qu'ils sont en train de traverser. C'est arrivé dans l'histoire, il y a des moments dans l'histoire où on profanait les morts. Voilà. Vous voyez, il y a cette idée que le mort, il est sacré. Alors, c'est une question très vaste. Pourquoi la mort est sacrée et pourquoi les cadavres sont sacrés? Bon, déjà, les êtres humains sont sacrés pour les êtres humains. Toutes les religions vont dire l'homme est sacré. L'homme, il a une vocation spirituelle et cette vocation, elle s'inscrit notamment dans son corps. Par exemple, les chrétiens, ils vont dire votre corps est le temple de Dieu. Il y a une phrase comme ça chez saint Paul, hein, vous savez, donc un des fondateurs du christianisme. L'esprit de Dieu habite dans votre corps. Donc, votre corps, c'est un temple. Oui. L'idée du temple, c'est quelque chose qui, à la fois, ouais, c'est un objet, un temple, c'est un bâtiment, c'est matériel, mais c'est un bâtiment sacré. C'est pas un bâtiment pour faire n'importe quoi. Oui, bon. Donc, il y a ce respect du corps, hein, qui a tout un tas de conséquences dans la vie, à travers l'alimentation, la sexualité, de tout en fait, hein, l'éthique, l'hygiène, tout un tas de choses. Bon. Ça, c'est commun à toutes les religions. Après, ce qui est très intéressant, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, les religions, elles sont à la fois, enfin, elles ont dans cette diversité extraordinaire, c'est que cette idée fondamentale, le corps est sacré, l'être humain est sacré, elle va se traduire de façon très différente selon les époques et les pays, selon les sociétés, et des fois de façon opposée. D'ailleurs, par exemple, je donne un exemple le plus frappant. Pour nous, une des choses les plus choquantes, c'est le cannibalisme, manger des humains. C'est ce qu'on appelle un tabou fondamental. Tabou, etc. Un des plus fondamentaux, on ne mange pas la chair des humains. Or, vous savez, il y a des époques, des sociétés où on mange les humains. toujours avec un principe des. C'est pas fait n'importe comment, etc. Et ce qu'on constate, c'est que là aussi, sauf exception, le cannibalisme, il est toujours lié à des raisons rituelles. C'est un cannibalisme religieux, en fait. Et c'est quoi la logique, en fait? Nous, on pourrait dire, quand on enterre nos morts, c'est pour les honorer. La coutume, c'est. Voilà, on ne va pas laisser un cadavre dans la rue comme ça sans s'en occuper. Bon, on va faire un rituel, on va prendre soin. Il y a une notion dans le droit français actuel qui s'appelle la dignité de la personne humaine et qui fait que le corps est protégé de tout un tas de règles, et les cadavres en particulier. Bon, par exemple, quand quelqu'un meurt dans notre famille, vous ne pouvez pas le déplacer le corps comme ça, etc. C'est interdit par la loi. Voyez, il y a des lois juridiques, des lois républicaines actuelles qui interdisent tout un tas de choses par rapport au corps. Et puis, on pourrait dire, vous avez des lois morales ou sociales, culturelles, qui font aussi que le rapport au corps du mort, il est très contrôlé, régulé par tout un tas de choses à faire ou à ne pas faire. Bon, donc voyez, nous, on ne mange pas les morts. Eh bien, dans certaines sociétés, manger les morts, c'est la façon de les honorer. C'est-à-dire que l'idée est la même. Que si vous êtes un papou de Nouvelle-Guinée ou certains groupes d'Amérindiens d'Amazonie, par exemple, ils vont manger leurs morts. Mais dans leur idée, c'est pour les honorer. Voyez. Et pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, quel est l'endroit le plus noble pour garder le souvenir des morts? C'est dans votre cœur.
Les avoir
en soi. C'est de les avoir en soi. Et donc c'est tout à fait logique. Quand on réfléchit, quand vous demandez à ces gens-là pourquoi ils font ça, mais c'est des humains comme nous, ils sont aussi intelligents. Et ils vont dire, bah, pour eux c'est évident, ils vont dire, bah, voilà, on les garde nous-mêmes. Nous, par exemple, c'est des peuples, ils sont nomades, ils se déplacent. Bah, s'ils disaient, on ne peut pas enterrer nos morts à un endroit, parce que nous, dans 2 ans, on ne sera plus là, on sera dans un autre endroit dans la forêt. Donc on porte nos morts avec nous, on les porte en nous. Vous voyez ? Alors ça, c'est une des significations. L'une des autres significations aussi, c'est que quand vous mangez le mort, la force du mort vient en vous, les qualités du mort viennent en vous. Vous voyez ? Donc ça explique beaucoup. Par exemple, en Afrique, où il y a certaines formes de cannibalisme, il y a le fait de manger certains organes du mort. On va manger son cerveau, par exemple, on va manger son foie ou son cœur. Donc vous voyez, c'est pas du tout alimentaire, c'est pas pour se nourrir qu'on fait ça. C'est pour bénéficier des qualités du mort. Oui. Donc, on pourrait dire, ce qui est commun à toutes les civilisations et qui est un trait caractéristique de l'humanité, c'est qu'on prend soin des morts, les morts sont sacrés, les morts témoignent du lien qu'il y a entre l'homme et l'invisible. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la mort et le sacrifice. Le rituel central qu'il y a dans toutes les religions, c'est le sacrifice. Et qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est faire une offrande. Et il y a des sacrifices non sanglants, où on fait des offrandes de fleurs, d'encens, de chants, de lumière. Bon. Et puis, il y a des sacrifices sanglants, on va tuer un animal, voire même il y avait des sacrifices humains dans les sociétés du passé. Et bien, cette logique du sacrifice, là aussi, elle est très très riche, on ne peut pas te la détailler entièrement, mais l'un des points clés, c'est que quand vous tuez, vous manifestez le passage entre le visible et l'invisible. Vous voyez, l'animal, il était là, il est vivant, il est dans l'ordre de la nature, et puis, on fait un geste rituel, on le tue, et à ce moment-là, il est mort. Vous voyez, donc on a rendu présent le passage entre la vie et la mort. On a rendu perceptible le passage entre le visible et l'invisible. Et donc ça nous met en relation avec l'invisible. Donc vous voyez, dans l'idée du sacrifice, il y a l'idée à la fois d'offrande. Donc c'est toujours pareil, quand on aime quelqu'un, on lui fait des cadeaux. Ben là, c'est exactement pareil. Quand on aime Dieu, on lui fait des cadeaux, ou des dieux, ou le Bouddha, ou qui vous voulez. Et il y a cette idée d'offrande, de don et de contre-don. Mais il y a aussi cette idée, vous voyez, de se mettre en présence de l'invisible et se relier à l'invisible à travers le rapport vie-mort. Et bien, les cadavres humains, c'est pareil. Ils témoignent, au fond, on pourrait dire, de la réalité spirituelle de l'être humain. C'est-à-dire que voyez, nous tous, on est des êtres dans des corps, on est des êtres physiques, matériels. Et en même temps, on n'est pas que ça. Et donc, au moment de la mort, c'est le moment où on va essayer de se rappeler par excellence qu'on est des êtres spirituels et que la vie continue. Même si le corps est mort, même si le corps est mort, et la vie continue. Et donc toutes les religions, voilà, elles sont d'accord là-dessus. C'est pour ça que l'un des premiers signes, vous savez, aussi de l'humanité, quand on fait des recherches sur les Homo sapiens, nos très 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 lointains ancêtres, il y a plus de 100 000 ans, eh bien, ce qui va permettre de dire qu'on a vraiment en face de nous des hommes, c'est notamment de constater que les corps ont été enterrés ou traités d'une certaine façon. En général, ils sont enterrés en forme de fœtus, avec des offrandes, avec des symboles, etc. Ça caractérise l'espèce humaine.
Comme les pyramides avec de l'or.
Avec de l'or, avec des cadeaux, etc. Dans cette idée, voilà, que un corps humain mort, c'est pas un déchet. C'est pas quelque chose qu'on met à la poubelle, vous voyez. C'est une réalité sacrée parce que la vie humaine est sacrée et donc le corps humain est sacralisé aussi, vous voyez. Et après, une fois qu'on a dit ça, ça c'est commun à tous, mais la façon de manifester le sacré, là, elle peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Et donc des fois, ça peut être de faire disparaître le corps, on l'a vu, ou au contraire de le conserver. Vous voyez, et d'où l'explication pourquoi il y a des gens qui vont, par exemple, condamner la crémation. Alors, dans la logique, vous voyez, de l'Église catholique. Pourquoi c'était interdit dans les sociétés catholiques et même chrétiennes en général, de brûler le corps. C'est interdit dans le judaïsme, si je vous dis, parce que c'est dans la Bible, il est dit notamment, vous savez, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parce que dans la vision monothéiste, Adam, le premier homme, et Ève, ils ont été faits avec de la terre, avec de la poussière. Donc, tu n'es pas Dieu. Le message, c'est ça, c'est tu es lié à Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Donc tu as une dimension matérielle. Cette dimension matérielle, elle retournera à la matière. Donc, l'idée aussi qui est présente chez les monothéistes, c'est qu'il va y avoir la résurrection des corps, c'est-à-dire à la fin des temps. Et bien ça implique qu'il ne faut pas que le corps soit détruit. Pour que le corps puisse ressusciter, se relever des morts, il y a des tableaux du Moyen-Âge qui montrent cette scène, les gens ils sortent de leur tombeau comme dans les films d'horreur et tout. Bon, ben ça c'était compris par les chrétiens, notamment, et aussi par les juifs, et je pense par les musulmans aussi d'ailleurs, comme l'idée de il faut que le corps soit le plus intact possible au moment de la mort. Il ne faut pas le couper, amputer. Et aussi, c'est pour ça que c'est des sociétés où on est contre les tatouages, c'est toutes les choses qui vont marquer ou transformer le corps. Pourquoi ? Pour que le corps, après la mort, puisse ressusciter de façon complète. Alors que s'il est brûlé, ben, les gens se disaient, mais il ne pourra pas ressusciter s'il est brûlé. Ce qui est naïf, parce qu'on pourrait dire, bah, Dieu, s'il peut ressusciter un mort, il peut aussi ressusciter rassembler toutes les petites cendres qui sont répandues partout, et bon Dieu, il peut tout faire. Mais voilà, c'était compris comme ça par les gens de l'époque. Et donc pour eux, la façon de permettre au corps d'avoir une destinée posthume, une destinée après la mort, la meilleure possible, c'était de conserver le corps et de ne pas le détruire. Donc on interdit de brûler. Alors que, voilà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chez les hindous, chez les bouddhistes, avec toujours pour aider le corps, le mort après son décès, après son départ, on va faire l'inverse. Vous voyez, donc toujours cette idée, au fond, voilà, les sociétés différentes et religions différentes ont des coutumes différentes, mais souvent, c'est au nom des mêmes principes fondamentaux. Et donc, vous voyez, quand on essaie de comprendre notre religion, de comprendre l'être humain en général, il faut à la fois regarder le commun et regarder le différent. Et il faut tenir les deux ensemble. Les humains, c'est pas... L'espèce humaine, elle est une. Le genre humain, il est un. Mais cette unité, elle se traduit par des façons de faire très, très différentes. Pensez aux langues. Nous, les humains, on est tous des humains. Hein, quelle que soit notre couleur, notre forme, on est des humains. Donc, on se ressemble fondamentalement. Mais être humain, ça veut dire avoir des différences. Et donc, il y a des langues, des milliers de langues différentes. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour votre attention.
Merci, monsieur Vincent, d'avoir accepté de répondre à vos questions.
On a appris beaucoup de choses sur les différents bouddhismes.
Et il y a plusieurs façons de les pratiquer.
Certains de ces pratiques étaient un peu bizarres, mais c'était intéressant.
On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points communs entre toutes les religions, mais elles sont formulées différemment.
Ça nous a permis d'avoir un autre regard et de savoir des choses que nous ne connaissions pas.
Cette émission a été réalisée par 8 élèves du collège parisien Boris Vian dans le cadre d'un atelier d'apprentissage par la recherche proposé par l'association Enquête avec la collaboration d'Annabelle Takam, professeure documentaliste du collège, et Aurélie Gollon, responsable de l'action collégienne. Ont participé à l'atelier Nicolae, Jessie, Florence, Enzo, Matteo, Maxime, Aleph et Willy. Le montage sonore est réalisé par l'animatrice Tasnim Penpoint. De chaleureux remerciements sont adressés de la part de tous les participants à l'atelier, à Eric Vincent et à l'équipe de l'association Enquête, ainsi qu'à l'administration du collège pour avoir permis la tenue de cet atelier.